Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. C'est avec bonheur que je reçois Serge Adam, ancien directeur d'hôpital en France, major de l'École supérieure de hautes études de la santé publique, avec une thèse sur Ivan Illich. Ivan Illich est connu notamment pour sa critique radicale de la gestion de la santé. Il est l'inventeur du concept de maladie iatrogène, la némésis médicale et de l'école. Il publiera « Une société sans école ». Après cette carrière, Serge Adam rencontre Anne Illich, belle-sœur d'Ivan Illich, qui l'encourage à montrer l'actualité d'Ivan Illich. Il va approfondir l'autre partie de l'œuvre d'Illich que nous allons évoquer aujourd'hui. Serge Adam, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors nous avons déjà fait une première émission et j'aimerais qu'aujourd'hui vous récapituliez en quelque sorte ce qui caractérise la pensée d'Ivan Illich.
Alors là, dans la première émission, effectivement, on a introduit à la pensée d'Ivan Illich sous l'angle de sa sociologie et notamment en prenant comme fil conducteur l'école. En gros, ce qu'il apporte à la sociologie, c'est cette idée de sphère sociale qu'est la sphère éducative. Elle se constitue comme lieu d'apprentissage obligatoire pour tous, à partir de Comenius au XVIIe siècle. Le besoin éducatif est le noyau axiomatique de croyances autour duquel se développe la sphère éducative. La révolution des mentalités pour échapper à la catastrophe devait être un changement pour le paradigme de la convivialité. Le savoir redevient sagesse et écologie spirituelle en contrebalançant l'influence trop exclusive des noyaux de croyance de ces sphères qui semblent continuer d'ignorer que le centre de l'univers n'est pas l'homme.
Alors, avant ce désencastrement de la sphère éducative, qu'y avait-il ?
La sociologie chrétienne d'Illich explique la place qu'il a réservée à la redécouverte du programme intégré de l'école cathédrale, objet de tout un livre en 1991. Donc là, on est loin de la séparation des choses, mais de l'intégration au contraire. Hugues de Saint-Victor, écolâtre, explique dans quel ordre il faut apprendre les disciplines qui déclinent la philosophie entendue comme l'amour de la sagesse. Les chanoines, au Moyen-Âge, sont porteurs de la première renaissance, intégrant la philosophie antique au programme avec la théologie. La quête de sagesse est la quête de quelqu'un qui est le Verbe incarné, fils du Créateur, dont les sciences étudient la création. L'école cathédrale est le contraire d'une sphère désinsérée, puisque le programme de cette école est fait par les chanoines qui se rattachent à l'évêque pour être plus dans le siècle, n'être pas retirés dans les monastères. Le rattachement séculier des chanoines de l'école cathédrale lui permet en quelque sorte d'extérioriser l'apprentissage de la lecture méditative, pratique dont Hugues de Saint-Victor enseigne notamment la discipline, il faut lire, dans le calme, et permettant temporairement cet exil intérieur sans se couper du monde. La façon d'apprendre à lire va se dédoubler par des inventions comme la séparation des mots et des paragraphes, toujours dans le cadre de l'écriture manuscrite, mais qui facilite la recherche et développe plus la pensée logique. L'éducation devient ainsi une sorte de religion séculière, inculquant par son rituel qu'elle est un service nécessaire pour répondre aux besoins éducatifs de tout être humain dans une société inéluctablement en progrès scientifique. Les sphères économiques ou éducatives sont des sphères sociales séparées les unes des autres et désencastrées. Elles ne créent plus une vision globale de la culture. Elles colportent par usurpation une prétention à l'universalisme qui explique la mondialisation d'aujourd'hui. Illich explique que les sphères ne sont qu'une métaphore représentative d'un paradigme. Comme le montrait le savant épistémologue Kuhn, l'évolution se fait par changement de paradigme. Dans le miroir du passé, Illich écrit en 1994 et explique longuement ce qu'est un changement de paradigme en prenant l'exemple de la science astronomique qui se développe avec une vision du cosmos plein de sphères célestes et qui va changer de paradigme en supprimant ces sphères célestes. Ce changement de paradigme arrivera finalement avec Kepler. Je cite littéralement Ivan Illich, et qui a fait de longues pages là-dessus. Après la mort de Tycho Brahe, Kepler prépara son catalogue monumental des étoiles. Surtout, il entrevit, dit Illich, le point sur lequel ses trois grands prédécesseurs, Ptolémée, Copernic et Brahe, s'étaient fourvoyés. Il n'avait pas pu imaginer les mouvements des astres détachés des sphères célestes. Kepler, lui, ne tenta pas de remplacer les sphères par quelque chose d'autre. Il les élimina purement et simplement. Kepler remplaça un mécanisme de sphères par des corps célestes décrivant chacun son orbite. Illich veut nous faire comprendre qu'il est dur de changer de paradigme et, en transposant, qu'il nous sera aussi difficile de sortir des monopoles radicaux qui sont l'équivalent à des sphères sociales dans la vision des membres de la société et des acteurs de chacune des sphères. Je reprends cette citation d'Illich. « Il m'apparaît, dit-il, que le débat sur l'éducation, si radical qu'il soit, continue de se préoccuper exclusivement de la réorganisation des sphères sociales sur le modèle de l'astronomie avant Kepler. La discussion se déploie sur le bien fondé ou la nécessité de redéfinir, relier, développer ou ajouter de nouveaux épicycles dans cette sphère particulière. » Et Illich continue, « Et lorsque d'autres orientations éducatives prétendent être fondamentales, la question qui prime est celle de la relation entre la sphère éducative et les autres sphères. Est-ce la production ou la politique qui doit être le pivot du système social? Ou le système scolaire qui doit y conserver une position centrale? Comment, continue Illich, comment rattachons-nous entre elles les sphères de l'éducation, de la santé, de l'aide sociale, de la recherche, de la finance, de l'économie, de la politique ?» Et il dit « La sphère éducative est une construction mentale, analogue à la sphère de Mercure, et que le besoin qu'ont les êtres humains d'être éduqués peut se comparer à leur besoin de vivre au centre stable de l'univers. Cette sphère est cartographiée par une idéologie qui a fait se constituer nos convictions à propos d'Homo Educandus. » Et Illich, vous avez dit, cette citation a été tronquée, mais elle est beaucoup plus longue en réalité. Et donc, elle se termine par « Elle est structurée socialement par un ensemble spécifique d'institutions dont l'alma mater ecclesia est le prototype. Elle est implantée dans la vision du monde de chaque individu par la teneur latente de tous les programmes éducatifs, lesquels rabaissent inévitablement le savoir vernaculaire, et par l'accoutumance au mode de vie, qu'engendre forcément le contrôle des professionnels sur la définition et la satisfaction des besoins. Enfin, dit Illich, la sphère éducative est la chasse gardée à des divers corps d'enseignants qui définissent les besoins en termes de problèmes, qu'ils ont seuls socialement mission de résoudre par l'école et en dehors de l'école. Pour chacune des sphères sociales, on peut étudier le processus qu'il a désinséré au point de lui conférer un monopole radical qui paralyse son homologue vernaculaire. » On voit au passage comment il a emprunté le concept de Karl Polanyi.
Donc on peut dire que Illich considérera par raisonnement analogue la sphère éducative, puisqu'elle utilise le rituel de la scolarité obligatoire, ancre toujours plus dans nos mentalités le credo du besoin éducatif.
Oui, la dernière fois, nous avons dit dans cette brève biographie d'Illich qu'il a fait sa formation au Vatican. Et au niveau de cette formation philosophique et théologique qui l'amène à la prêtrise, Illich a surtout aimé l'ecclésiologie, qui lui permet d'articuler le sociologique et le religieux. En étudiant l'articulation entre les disciplines qu'Illich manie, on s'aperçoit qu'il a utilisé différents outils équipant différentes portions d'optique. J'ai pris l'image du télescope. Différentes portions d'optique, différentes lentilles qui grossissent chacune ce que la précédente a donné. Alors, dans la corruption du meilleur engendre le pire, publié chez Actes Sud en 1991, on peut lire page 195, « Au sein de la théologie, c'est-à-dire de l'approche intellectuelle du message des évangiles, un domaine m'intéressait particulièrement. » Deux points, l'ecclésiologie, c'est-à-dire l'étude théologique de l'entité Église, non plus en tant que phénomène historique, mais selon le point de vue du croyant, dans la perspective de la foi en cette nouvelle possibilité de rencontrer autrui, qu'indique la parabole du Samaritain. L'ecclésiologie consiste à étudier comme un des mystères de la foi, continue Illich, cet objet nommé Église, qui se voit lui-même comme le corps mystique du Christ. Bon, les longues phrases d'Illich appellent une petite explication de texte. L'Église peut être l'objet d'une approche intellectuelle théologique. L'Église est aussi l'objet de l'ecclésiologie, qu'il étudie comme un mystère de la foi, comme il vient de nous le dire, qui fait d'elle le corps du Christ. Une approche intellectuelle qui descend des hauteurs de la théologie vers l'ecclésiologie a plus de chances de se rendre intelligible, audible, visible dans la sphère des médias. Illich nous dit que l'ecclésiologie est située au sein de la théologie, mais différenciée de l'histoire de l'Église. Il dit que son ecclésiologie relève un peu d'une phénoménologie de la rencontre avec quelqu'un. Cette rencontre est illustrée par la parabole du Samaritain. Pour Illich, dans cette parabole, Jésus met en scène une rencontre entre deux êtres au-delà de toute distinction d'appartenance ethnique ou politique. Illich dira ailleurs que le Samaritain personnifie l'attitude du Christ, qu'il est le Christ. L'ecclésiologie est donc la phénoménologie de la rencontre d'amitié avec une personne qui est Jésus le Christ. Ailleurs, Illich nous redonne les éléments de technique et d'éthologie historique pour comprendre comment a été enregistrée par l'écrit la parole de Jésus, cri qui est le Verbe incarné auprès de l'homme. Là, nous sommes en plein champ de la foi et nous allons revenir à l'articulation avec ce que nous avons présenté la dernière fois, l'aspect sociologique de la pensée d'Illich.
Donc on peut dire que pour Illich, l'ecclésiologie est plus ancienne que la sociologie.
Voilà, c'est la phrase même d'Illich, l'ecclésiologie est plus ancienne que la sociologie, ça nous donne la clé de son articulation. Le phénomène de rencontre qui fait Église et la communion retracée par les dictionnaires, Illich rappelle que cette communion était à l'origine une co-inspiration qui a donné conspiration, mais qui doit rester intelligible comme communion entre les esprits, tous fidèles à cette relation d'amitié. Le dictionnaire d'étymologie Robert donne pour église la racine du mot ecclesia qui appartient à la famille clair, qui veut dire appelé et ses dérivés. Parakalein, appelé à son secours, qui a donné parakletos, avocat, défenseur, consolateur, intercesseur, et ecclesia, assemblée par convocation.
L'étymologie est intéressante.
Voilà. Pour Illich, cette possibilité de rencontre est décrite dans la parabole du Samaritain. Le Samaritain répond à l'appel du Juif blessé. C'est à ce moment qu'apparaît la graine porteuse, dit Illich, d'une relation amicale qui pourra se poursuivre comme elle peut être abandonnée ou trahie. Et il le dit ça en répondant à David Kelley sur la compréhension de l'épître de Jacques. La fidélité à cette amitié définit la foi. Foi, dit Illich, qui est foi en cette nouvelle possibilité de rencontrer autrui. Cette rencontre qui ne se soucie d'aucune différence ethnique est pour Illich la révolution qu'amène Jésus. Foi vient de fides, c'est-à-dire la même origine étymologique donc que fidélité. Utilisant comme Illich la référence de l'ecclésiologue Gerhard Ladner, Illich pourrait être considéré comme un réformateur individuel et non institutionnel de la famille du fidéisme.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
The upper room where Jesus sat in that hill, blessed. Begging for his mercy, sweet, trust in his grace and power. seek and bear his love in prayer. It is this heart feels beautiful.
Alors Serge Adam, maintenant peut-être pouvez-vous évoquer pour nous cette conception de la foi.
Alors, pour ceux qui découvriraient pour la première fois le fidéisme, cette conception de la foi d'Ivan Illich, on peut dire qu'il peut passer pour un réformateur personnel au sens de la classification employée par Gerhard Ladner, qui a étudié donc les catégories de renouveau de ou dans l'Église dans un maître d'ouvrage d'historiographie ecclésiale, The Idea of Reform. Comme Illich, Gerhard Ladner appréhende le XIIe siècle comme liant avec autant la réforme personnelle que la réforme institutionnelle. Grâce à son articulation entre la veine sociologique et la veine ecclésiologique, Illich se préoccupe ainsi de rendre intelligible la sphère religieuse à la sphère des communications. La sociologie laïque et laïcise l'ecclésiologie. Il faut considérer l'articulation à tous les étages de la foi, de la façon de voir, comme avec une longue vue télescopique. En amont de l'ecclésiologie, il recourt à la lentille de l'éthologie historique, le facteur instrumental qui impacte la mentalité et la technique d'écriture. La page partition n'engendre pas le même effet sur la mentalité que le texte de l'ère livresque qui fera passer d'une possibilité méditative à une appréhension plus intellectuelle ou conceptuelle. La deuxième lentille, c'est la lentille de l'ecclésiologie qui se recentre sur la phénoménologie de la foi, comme on l'a vu, et phénoménologie de la foi et de la rencontre. La réforme est plus personnelle. Le facteur matériel qui change la culture occidentale se produit dans l'écriture manuscrite issue du monachisme et encore enseignée publiquement par Hugues de Saint-Victor, qui est lui, non pas un moine, mais un chanoine de l'ordre des Augustins, enseignant cet art de lire dans l'école cathédrale de Paris au début des XIIe siècles, soit 3 siècles avant l'invention de l'imprimerie. Alors c'est important parce que cette réforme individuelle de la lecture correspond à un rite de lecture ascétique.
Vous entendez par là, lecture ascétique ?
Alors voilà, elle a lieu bien avant la réforme institutionnelle protestante engendrée par la facilitation d'accès aux textes imprimés. Le fidéisme du XIIe siècle, et qui est illustré par exemple par Hugues de Saint-Victor, mais aussi par un Joachim de Flore, donc qui a vécu de 1130 à 1202. Il ne se confond donc pas avec le piétisme ou la contre-réforme qui, elle, date du XVIIe siècle. En aval de l'ecclésiologie, on a une troisième lentille, la sociologie contemporaine de la modernité, puisque Durkheim et Weber sont évidemment contemporains de la modernité. Complétée donc avec celle de Karl Polanyi, comme on l'a vu la dernière fois, sur le désencastrement des sphères sociales, devenant monopolistiques et contre-productives, ajoute Illich, chacune dans leur domaine. Ce n'est pas la division sociale du travail de Durkheim ou le rapport de l'activité à la rareté de Max Weber qu'il suffit de considérer. Ce que la sociologie respective de Durkheim et de Weber ont fait, donc Illich le reprend. Ce sont les croyances véhiculées par les religions séculières, la sécularisation de l'évangile qui est à distinguer aussi de la laïcisation du christianisme. Sécularisation et laïcisation donc, du christianisme ne sont évidemment pas la même chose, telle que cette laïcisation du christianisme est exposée par l'italien Vattimo dans son livre « Le christianisme laïque ». Après l'ère du Père, l'ère du Fils, l'ère de l'Esprit, le fameux paraclète qu'on voyait tout à l'heure dans l'étymologie du mot « Église », a toujours trait à la fidélité à cette divine personne. Comme l'écrit le frère Emmanuel de Thésée dans son livre « Cet amour inconnu », l'amour de Dieu qui désire être aimé doit être entendu au plus intime de nous-mêmes. Il faut ajouter à la vue télescopique d'Illich encore une lentille, celle de l'écologie, non seulement environnementale, mais également spirituelle, car elle a trait à la sauvegarde de la diversité, non pas des espèces ici, mais des modes de lecture. Et pour être complet en psychosociologie clinique de la mentalité, donc il y a cette lentille supplémentaire, l'ecclésiologie de la foi, La foi-fidélité, ce fidéisme, focalise sur le moyen d'une rencontre qui fait faire corps et restaure l'homme à la ressemblance d'une personne intégrale. La foi répond à une fonction d'appel bien individualisée par un autre ami d'Illich, donc, qui est Emmanuel Lévinas. Si l'on prend la bonne focale sur le lien d'amitié réciproque, on peut mettre à distance les sphères sociales et leur emprise unilatérale sur nos aspects inculqués d'homo economicus ou d'homo educandus ou d'homo viator pour ce qui concerne les transports ou biologicus pour ce qui concerne la médecine. Les services de la modernité ont démantelé le lien évangélique. C'est la corruption du meilleur, pour reprendre le dernier titre d'Illich, la corruption du meilleur engendre le pire, donc publié en 2007, qui, au lieu de nous libérer, nous assujettissent aux dépendances secrétées par des services désincarnés. Alors, on a l'incarnation avec le Christ d'un côté et des corruptions du message chrétien par des services désincarnés de l'autre. Illich approfondit jusqu'à détailler le moyen qu'a cette rencontre d'avoir toujours lieu aujourd'hui en réécoutant la parole de Jésus grâce à une simple Bible. C'est la forme écrite qui a permis la mémorisation de ce qu'il a dit dans la fameuse parabole du Samaritain. Jésus, qui lui-même lisait la Bible et la commentait au temple, est pour toujours enregistré, entre guillemets, par l'écrit laissé par ses disciples ou amis, et qui nous mettent à leur suite en capacité, à notre tour, de réécouter et de commenter. L'écoute de la parabole du Samaritain, lue à haute voix, nourrit la méditation qui la suit et nous convertit à l'amitié réciproque avec Jésus. Illich va donc orienter longuement sa recherche sur l'évolution des modes de lecture dans Du lisible au visible, commentaire du Didascalicum de Hugues de Saint-Victor, naissance du texte, donc publié en 1991.
Donc on peut dire que dans son œuvre, il y a un ordre entre les matières.
Tout à fait, Madame Christiane Blain, puisqu'une interaction entre ecclésiologie et sociologie, il y a une sorte d'intégration croissante de plusieurs optiques scientifiques. Je vois alors se dessiner dans son œuvre un ordre, une hiérarchie, effectivement, entre les matières, avec l'éthologie historique plus large et plus technique que l'ecclésiologie, et l'ecclésiologie plus ancienne, comme il nous l'a dit, que la sociologie, et la sociologie débouchant sur l'écologie spirituelle au sens de maintenir la diversité des modes de lecture. Jésus disparu nous a laissé le paraclète, qui répond de cette foi-fidélité grâce à un outil des plus conviviales, le livre des Écritures, mémorisant son Nouveau Testament, nouvelle formulation de l'Alliance de façon incarnée, c'est-à-dire avant tout personnelle. Grâce à cette ecclésiologie d'Illich, les Églises et chacun de nous pouvons retrouver la méthode de lecture de la Bible qui sied à la méditation et la méthode d'exégèse enseignée à l'apogée du Moyen-Âge au XIIe siècle par Hugues de Saint-Victor. C'est dans le même rapport de relation à l'autre que se trouve le Samaritain et le juif blessé, et le lecteur moderne, imaginant à travers les lignes l'appel désespéré d'un autre juif blessé, Jésus lui-même, s'adressant au Père Céleste, « Père, m'as-tu abandonné ?» mais qui est aussi l'appel qui s'adresse à nous personnellement. Au final, la lecture méditative, la méditation, s'achève sur la question de notre choix d'adopter cette fidélité pour qu'il ne soit pas mort pour rien.
Alors, la question est-ce que l'action de l'Église d'aujourd'hui peut s'inspirer des réflexions ecclésiologiques interculturelles d'Illich?
Oui, Christiane, je crois qu'effectivement c'est toute l'actualité d'Ivan Illich. Donc cette réponse est certainement oui, car l'Église, depuis l'encyclique Laudate Si du pape François en 2015, oriente sa mission non seulement sur l'écologie, mais aussi vers l'interculturel, comme Illich l'avait initié avec le CIDOC, le Centre Intercultural de Documentation de Cuernavaca, dans les années 70. On peut mesurer cette ressemblance quand on lit le rapport final du Synode d'Amazonie, paru depuis octobre 2019 sur le site de l'Église verte. La mission de l'Église, parce que le Christ dépasse l'appartenance ethnique, devient une préoccupation sur la maison commune. L'Église verte n'est pas seulement une labellisation du comportement écologique des structures ecclésiales, mais une définition de l'action se rattachant à l'écologie spirituelle, comprenant que des cultures, se respectant mutuellement, peuvent mieux gérer durablement les ressources finies de la maison commune. Dans le paragraphe 49 de ce rapport final du Synode d'Amazonie, on nous informe que la Pan-Amazonie compte 130 peuples qu'il faut respecter en tant que tel. Il se dégage de ce synode que ce seraient plutôt ces peuples sans institutions économiques ou scolaires qui auraient beaucoup à nous apprendre. Dans le paragraphe 44, on lit précisément « La pensée des peuples autochtones offre une vision intégratrice de la réalité, capable de comprendre les multiples liens qui existent entre tout ce qui est créé. Ceci contraste avec le courant dominant de la pensée occidentale qui tente à fragmenter pour comprendre la réalité, mais ne parvient pas à articuler toutes les relations entre les différents champs de la connaissance. La gestion traditionnelle de ce que la nature offre aux peuples autochtones s'est faite d'une manière que nous qualifierons aujourd'hui de gestion durable. » Alors j'écourte ce paragraphe pour vous lire un morceau du paragraphe 25 qui dit « En Amazonie, le dialogue interreligieux se déroule surtout avec les religions indigènes et les cultes d'origine africaine. Ces traditions méritent d'être connues, comprises dans leur propre expression et dans leur relation avec la forêt et avec la terre-mère. » On peut lire encore dans le paragraphe 54 que la théologie devient inculturée. La théologie inculturée, c'est l'évangélisation de l'Église n'est pas un processus de destruction, mais de consolidation et de renforcement de ses valeurs, une contribution à la croissance des semences du Verbe. Le thème bien connu de l'acculturation s'enrichit donc. Il y a deux images en miroir. D'un côté, l'inculturation de l'annonce à la périphérie de la mondialisation occidentale, et de l'autre, la réinculturation de l'Évangile en Occident, qui connaît une sorte d'exculturation par la religion économique ou corruption par la sécularisation de l'Évangile. Dans le paragraphe 55, le synode d'Amazonie dit « Nous rejetons une évangélisation de style colonial. L'évangélisation que nous proposons aujourd'hui pour l'Amazonie est l'annonce inculturée qui génère des processus d'interculturalité, des processus qui favorisent la vue de l'Église avec une identité, un visage amazonien. Ainsi, l'action ecclésiastique d'Illich hier et du pape François aujourd'hui montre qu'ils ont beaucoup de réflexions en commun. Les réflexions d'Illich à proprement parler sur l'écologie sont traitées par Illich dans H2O, les eaux de l'oubli en 1988, ou encore dans Énergie et équité, publié en 1975 chez Artem Fayard en 2004.
Alors, on pourrait se demander en conclusion ce que pense Illich de la société occidentale. Est-ce qu'elle s'est déchristianisée ?
Oui, Christiane Blain, le terme revient souvent, mais pour Illich, nous ne sommes pas déchristianisés. Au niveau de la société occidentale, il démontre que des quasi-religions séculières ont une puissante influence sur nos mentalités. Illich pense qu'il n'y a pas déchristianisation et que nous sommes toujours dans le christianisme, mais subissant l'impact ou l'emprise de la tentative perverse de concrétisation de l'Évangile par des services. Les nouvelles croyances inculquées sous forme de divers besoins sont une corruption de l'Évangile en religion séculière, de la sphère économique, de la sphère éducative, de la sphère des transports, de la sphère médicale, calquée sur la ritualisation chaque fois d'un besoin, comme l'Église a ritualisé le besoin du magistère de l'Église. La déchristianisation est uniquement une démonstration statistique. On relève par exemple le taux de pratique régulière dans les jeunes générations, on relève la proportion de prénoms du calendrier chrétien, on sonde la croyance en une vie après la mort. En réalité, il semble qu'il y ait davantage exculturation que déchristianisation. Pour observer cela, il faut s'intéresser aux facteurs de mentalité, comme Illich. Il y a une exculturation par l'intermédiaire de ces noyaux axiomatiques, ces noyaux de croyance des sphères sociales, qui sont de puissantes religions séculières. Le regard rétrospectif de l'ecclésiologue historien Illich n'a pas pour but de retourner au passé, à être passéiste, mais de mesurer l'évolution de nos mentalités. Il permet de faire prendre conscience du détournement de notre fidélité par les services de la société occidentale moderne.
Eh bien, je crois que toute chose a une fin et que cette émission, eh bien, heureusement, aura une suite dans 4 semaines. Un grand merci, Serge Adam. Je crois que la pensée d'Ivan Illich devient plus claire. Nous vous en remercions et nous vous disons donc dans 4 semaines. Et aussi, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, Serge Adam.
Merci, Christiane Blain. Thank you.
Thank you.